Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Retour donc ensemble dans nos lectures en liberté pour le texte de Vercors, Le silence de la mer. Nous ne le vîmes pas quand il revint. Nous le savions là parce que la présence d'un hôte dans une maison se révèle par bien des signes, même lorsqu'il reste invisible. Mais pendant de nombreux jours, beaucoup plus d'une semaine, nous ne le vîmes pas. L'avouerai-je, cette absence ne me laissait pas l'esprit en repos. Je pensais à lui, je ne sais pas jusqu'à quel point je n'éprouvais pas du regret, de l'inquiétude. Ni ma nièce ni moi, nous n'en parlâmes. Mais lorsque parfois le soir nous entendions là-haut résonner sourdement les pas inégaux, je voyais bien, à l'application têtue qu'elle mettait soudain à son ouvrage, à quelques lignes légères qui marquaient son visage d'une expression à la fois butée et attentive, qu'elle non plus n'était pas exempte de pensées pareilles aux miennes. Un jour, je dus aller à la commandanture pour une quelconque déclaration de pneus. Tandis que je remplissais le formulaire qu'on m'avait tendu, Werner von Ebernach sortit de son bureau. Il ne me vit pas tout d'abord. Il parlait au sergent, assis à une petite table devant un haut miroir au mur. J'entendais sa voix sourde aux inflexions chantantes, et je restais là, bien que je n'eusse plus rien à y faire, sans savoir pourquoi, curieusement ému, attendant je ne sais quel dénouement. Je voyais son visage dans la glace, il me paraissait pâle et tiré. Ses yeux se levèrent, ils tombèrent sur les miens. Pendant 2 secondes, nous nous regardâmes, et brusquement, il pivota sur ses talons et me fit face. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et avec lenteur, il leva légèrement une main que presque aussitôt, il laissa tomber. Il secoua imperceptiblement la tête avec une irrésolution pathétique, comme s'il se fût dit « non » à lui-même, sans pourtant me quitter des yeux. Puis il esquissa une inclinaison du buste en laissant glisser son regard à terre et il regagna en clochant son bureau où il s'enferma. De cela, je ne dis rien à ma nièce. Mais les femmes ont une divination de félin. Tout au long de la soirée, elle ne cessa de lever les yeux de son ouvrage à chaque minute pour les porter sur moi, pour tenter de lire quelque chose sur un visage que je m'efforçais de tenir impassible, tirant sur ma pipe avec application. À la fin, elle laissa tomber ses mains, comme fatiguée, et, pliant l'étoffe, me demanda la permission de s'aller coucher de bonne heure. Elle passait 2 doigts lentement sur son front, comme pour chasser une migraine. Elle m'embrassa, et il me sembla lire dans ses beaux yeux gris un reproche et une assez pesante tristesse. Après son départ, je me sentis soulevé par une absurde colère, la colère d'être absurde et d'avoir une nièce absurde. Qu'est-ce que c'était que toute cette idiotie ? Mais je ne pouvais pas me répondre. Si c'était une idiotie, elle semblait bien enracinée. Ce fut 3 jours plus tard que, à peine avions-nous vidé nos tasses, nous entendîmes naître, et cette fois sans conteste approcher, le battement irrégulier des pas familiers. Je me rappelais brusquement ce premier soir d'hiver où ces pas s'étaient fait entendre 6 mois plus tôt. Je pensais « Aujourd'hui aussi, il pleut. » Il pleuvait durement depuis le matin. Une pluie régulière et entêtée qui noyait tout alentour et baignait l'intérieur même de la maison d'une atmosphère froide et moite. Ma nièce avait couvert ses épaules d'un carré de soie imprimé où 10 mains inquiétantes dessinées par Jean Cocteau se désignaient mutuellement avec mollesse. Moi, je réchauffais mes doigts sur le fourneau de ma pipe et nous étions en juillet. Les pas traversèrent l'antichambre et commencèrent de faire gémir les marches. L'homme descendait lentement, avec une lenteur sans cesse croissante. Mais non pas comme un qui hésite, comme un dont la volonté subit une exténuante épreuve. Ma nièce avait levé la tête et elle me regardait. Elle attacha sur moi pendant tout ce temps un regard transparent et inhumain de grand-duc. Et quand la dernière marche eut crié, et qu'un long silence suivit, le regard de ma nièce s'envola. Je vis les paupières s'alourdir, la tête s'incliner, et tout le corps se confier au fauteuil avec lassitude. Je ne crois pas que le silence ait dépassé quelques secondes, mais ce furent de longues secondes. Il me semblait voir l'homme derrière la porte, l'index levé, prêt à frapper, et retardant le moment où par le seul geste de frapper, il allait engager l'avenir. Enfin, il frappa. Et ce ne fut ni avec la légèreté de l'hésitation, ni la brusquerie de la timidité vaincue. Ce furent 3 coups pleins et lents, les coups assurés et calmes d'une décision sans retour. Je m'attendais à voir comme autrefois la porte aussitôt s'ouvrir, mais elle resta close. Et alors je fus envahi par une incoercible agitation d'esprit où se mêlait à l'interrogation l'incertitude des désirs contraires, et que chacune des secondes qui s'écoulaient, me semblait-il, avec une précipitation croissante de cataracte, ne faisait que rendre plus confuse et sans issue. Fallait-il répondre ? Pourquoi ce changement ? Pourquoi attendait-il que nous rompions ce soir un silence dont il avait montré, par son attitude antérieure, combien il en approuvait la salutaire ténacité ? Quels étaient ce soir, les commandements de la dignité ? Je regardais ma nièce pour pêcher dans ses yeux un encouragement ou un signe, mais je ne trouvais que son profil. Elle regardait le bouton de la porte. Elle le regardait avec cette fixité inhumaine de grand-duc qui m'avait déjà frappé. Elle était très pâle, et je vis, glissant sur les dents dont apparut une fine ligne blanche, se lever la lèvre supérieure dans une contraction douloureuse, et moi, devant ce drame intime, soudain dévoilé et qui dépassait de si haut le tourment bénin de mes tergiversations, je perdis mes dernières forces. À ce moment, 2 nouveaux coups furent frappés, 2 seulement, 2 coups faibles et rapides, et ma nièce dit « Il va partir ». D'une voix basse et si complètement découragée que je n'attendis pas davantage et dis d'une voix claire « Entrez, monsieur !» Pourquoi ajoutai-je « monsieur » pour marquer que j'invitais l'homme et non l'officier ennemi, ou, au contraire, pour montrer que je n'ignorais pas qui avait frappé, et que c'était bien à celui-là que je m'adressais. Je ne sais, peu importe. Il subsiste que je dis « Entrez, monsieur », et qu'il entra. J'imaginais le voir apparaître en civil, et il était en uniforme. Je dirais qu'il était plus que jamais en uniforme, si l'on comprend par là qu'il m'apparut clairement que cette tenue, il l'avait endossée dans la ferme intention de nous en imposer la vue. Il avait rabattu la porte sur le mur et il se tenait droit dans l'embrasure, si droit et si raide que j'en étais presque à douter si j'avais devant moi le même homme, et que, pour la première fois, je pris garde à sa ressemblance surprenante avec l'acteur Louis Jouvet. Il resta ainsi quelques secondes droit, raide et silencieux, les pieds légèrement écartés et les bras tombant sans expression le long du corps, et le visage si froid, si parfaitement impassible, qu'il ne semblait pas que le moindre sentiment pût l'habiter. Mais moi qui étais assis dans mon fauteuil profond et avais le visage à hauteur de sa main gauche, je voyais cette main. Mes yeux furent saisis par cette main et y demeurèrent comme enchaînés à cause du spectacle pathétique qu'elle me donnait et qui démentait pathétiquement toute l'attitude de l'homme.
Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été, les robes de coton des filles, leurs tresses nattées de fleurs coupées. En riant, elle fuit les garçons. Des jardins viennent des flonflons. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Le soir aux terrasses, le vin brille, la nuit prend toute sérénité. Elle fait lever une rumeur, berce les cœurs, marque les heures. Dans les cheveux blonds d'une fille, la main qui caresse et s'arrête. On se dit non, c'est impossible. Et pourtant oui, ça vient, c'est là. C'est gros, c'est noir, ça hurle, ça crache. C'est chenillé, armé, blindé. C'est surmonté d'un fort canon et de plusieurs gueules casquées. Ferme les yeux et vois la ville, au matin blême et réprimé. Le sang qui passe du rouge au noir, séchant sur les rues labourées. Maisons éventrées et fumantes, stupeur, colère, haine cachée. Ferme les yeux, entends la ville, d'abord elle pleure puis se reprend. Et s'interroge pourquoi, comment, qu'avons-nous fait, pourquoi ce viol? Et qui sont-ils tous ces truands? Un jour pavé, arbre coupé. Les gars, les filles, les vieux, les jeunes font une ronde qui rend fou. Tous les guignols achèvera, qui ne comprennent vraiment pas. Le monde entier d'abord crédule, en reste assis sur son petit cul. Eh oui, ça y est, c'est arrivé. Les Cosaques ont été défaits. construit dans ta tête une ville. Dans la chaude torpeur d'un été, faut jamais se réjouir trop tôt, les Cosaques reviendront bientôt. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié. Et si demain c'était ta ville, mieux vaut ne dormir qu'à moitié.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Le silence de la mer, Vercors. Je dois vous adresser des paroles graves. Ma nièce lui faisait face, mais elle baissait la tête. Elle enroulait autour de ses doigts la laine d'une pelote, tandis que la pelote se défaisait en roulant sur le tapis. Ce travail absurde était le seul, sans doute, qui pût encore s'accorder à son attention abolie et lui épargner la honte. L'officier reprit. L'effort était si visible qu'il semblait que ce fût au prix de sa vie. Tout ce que j'ai dit ces 6 mois, tout ce que les murs de cette pièce ont entendu. Il respira avec un effort d'asthmatique, garda un instant la poitrine gonflée. Il faut. Il respira. Il faut l'oublier. La jeune fille lentement laissa tomber ses mains au creux de sa jupe où elles demeurèrent penchées et inertes comme des barques échouées sur le sable. Et lentement, elle leva la tête et alors, pour la première fois, elle offrit à l'officier le regard de ses yeux pâles. Il dit, à peine si je l'entendis, « Oh !» Pas même un murmure. Et si, en effet, comme si ses yeux n'eussent pas pu supporter cette lumière, il les cacha derrière son poignet 2 secondes, puis il laissa retomber sa main, mais il avait baissé les paupières et ce fut à lui, désormais, de tenir ses regards à terre. La voix était sourde, sourde, sourde. J'ai vu ces hommes victorieux. Puis après quelques secondes, d'une voix plus basse encore, je leur ai parlé. Et enfin, dans un murmure avec une lenteur amère, ils ont ri de moi. Ils ont dit, vous n'avez pas compris que nous les Bernons. Ils ont dit, cela exactement. Ils ont dit, vous ne supposez pas que nous allons sottement laisser la France se relever à notre frontière. Ils rirent très fort. Ils me frappaient joyeusement le dos en regardant ma figure. Nous ne sommes pas des musiciens. Sa voix marquait, en prononçant ces derniers mots, un obscur mépris, dont je ne sais s'il reflétait ses propres sentiments à l'égard des autres ou le ton même des paroles de ceux-ci. Alors j'ai parlé longtemps avec beaucoup de véhémence. Ils ont dit « La politique n'est pas un rêve de poète. Pourquoi supposez-vous que nous avons fait la guerre? Pour le vieux maréchal ?» Ils ont encore ri. « Nous ne sommes pas des fous ni des niais. Nous avons l'occasion de détruire la France, elle le sera. Pas seulement sa puissance, son âme aussi, son âme surtout, son âme est le plus grand danger. C'est notre travail en ce moment. Ne vous y trompez pas, mon cher, nous la pourrirons par nos sourires et nos ménagements, nous en ferons une chienne rampante. » Il se tut. Il semblait essoufflé. Il serrait les mâchoires avec une telle énergie que je voyais saillir ses pommettes et une veine épaisse et tortueuse comme un ver battre sous la tempe. Soudain, toute la peau de son visage remua dans une sorte de frémissement souterrain, comme fait un coup de brise sur un lac, comme aux premières bulles la pellicule de crème durcie à la surface d'un lait qu'on fait bouillir. Ses yeux s'accrochèrent aux yeux pâles et dilatés de ma nièce, et il dit « sur un tombat uniforme, intense et oppressé avec une lenteur accablée. Il n'y a plus d'espoir. Et d'une voix plus sourde encore et plus basse et plus lente, comme pour se torturer lui-même de cette intolérable constatation, pas d'espoir, pas d'espoir. Et soudain, d'une voix inopinément haute et forte, et à ma surprise, claire et timbrée, comme un coup de clairon, comme un cri, pas d'espoir. Ensuite, le silence. Je crus l'entendre rire. Son front bourrelé et fripé ressemblait à un grelin d'amarre. Ses lèvres tremblèrent, des lèvres de malade à la fois fiévreuses et pâles. Ils m'ont blâmé avec un peu de colère. « vous voyez combien vous l'aimez. Voilà le grand péril. Mais nous guérirons l'Europe de cette peste. Nous la purgerons de ce poison. » Son regard passa dessus ma tête, volant et se cognant au coin de la pièce comme un oiseau de nuit égaré. Enfin, il sembla trouver refuge sur les rayons des plus sombres, ceux où s'alignent Racine, Ronsard, Rousseau. Ses yeux restèrent accrochés là et sa voix reprit avec une violence gémissante. Rien, rien, personne. Et comme si nous n'avions pas compris encore, pas mesuré l'énormité de la menace, pas seulement vos modernes, pas seulement vos Peggy, vos Proust, vos Bergson, mais tous les autres, tous cela, tous, tous. Son regard encore une fois balaya les reliures doucement, luisant dans la pénombre comme pour une caresse désespérée. Ils éteindront la flamme, tout à fait. L'Europe ne sera plus éclairée par cette lumière. Et sa voix creuse et grave fit vibrer jusqu'au fond de ma poitrine, inattendu et saisissant, le cri dont l'ultime syllabe traîna comme une frémissante plainte « Nevermore ». Le silence tomba. Une fois de plus, mais cette fois combien plus obscure et tendue. Certes, sous les silences d'antan, comme sous la calme surface des eaux, la mêlée des bêtes dans la mer, je sentais bien grouiller la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui se nient et qui luttent. Mais sous celui-là, à rien qu'une affreuse oppression. Ses yeux s'ouvrirent très grands, comme sur le spectacle de quelque abominable meurtre. « Ils feront ce qu'ils disent !» s'écria-t-il, comme si nous n'avions pas dû le croire. « Avec méthode et persévérance, je connais ces diables acharnés !» Il secoua la tête, comme un chien qui souffre d'une oreille. Un murmure passa entre ses dents serrées, le « Oh !» gémissant et violent de l'amant trahi. Il n'avait pas bougé. Il était toujours immobile, raide et droit dans l'embrasure de la porte, les bras allongés comme s'ils eussent eu à porter des mains de plomb, et pâle. Non pas comme de la cire, mais comme le plâtre de certains murs délabrés, gris, avec des taches plus blanche de salpêtre. Je le vis lentement incliner le buste. Il leva une main. Il la projeta, la paume en dessous, les doigts un peu pliés, vers ma nièce, vers moi. Il la contracta, il l'agita un peu, tandis que l'expression de son visage se tendait avec une sorte d'énergie farouche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et je crus qu'il allait nous lancer je ne sais quelle exhortation. Je crus, oui, je crus qu'il allait nous encourager à la révolte. Mais pas un mot ne franchit ses lèvres. Sa bouche se ferma, et encore une fois ses yeux. Il se redressa. Ses mains montèrent le long du corps, se livrèrent à la hauteur du visage à un incompréhensible manège qui ressemblait à certaines figures des danses religieuses de Java. Puis, il se prit les tempes et le front, écrasant ses paupières sous les petits doigts allongés. Ils m'ont dit « C'est notre droit et notre devoir, notre devoir !» Heureux celui qui trouve avec une aussi simple certitude la route de son devoir. Ses mains retombèrent. Au carrefour, on vous dit « Prenez cette route-là. » Il secoua la tête. Or, cette route, on ne la voit pas s'élever vers les hauteurs lumineuses des cimes, on la voit descendre vers une vallée sinistre, s'enfoncer dans les ténèbres fétides d'une lugubre forêt. Ô Dieu, montrez-moi donc où est mon devoir, il dit, il crie après. C'est le combat, le grand bataille du temporel contre le spirituel. Il regardait avec une fixité lamentable l'ange de bois sculpté au-dessus de la fenêtre, l'ange extatique et souriant, lumineux de tranquillité céleste. Soudain, son expression sembla se détendre. Le corps perdit de sa raideur. Son visage s'inclina un peu vers le sol, il le releva. « J'ai fait valoir mes droits », dit-il avec naturel. « J'ai demandé à rejoindre une division en campagne. » Cette faveur m'a été enfin accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route. Je crus voir flotter sur ses lèvres un fantôme de sourire quand il précisa « Pour l'enfer ». Son bras se leva vers l'Orient, vers ces plaines immenses où le blé futur sera nourri de cadavres. Le visage de ma nièce me fit peine. Il était d'une pâleur lunaire. Les lèvres, pareilles au bord d'un vase d'opaline, étaient disjointes. Elles esquissaient la moue tragique des masques grecs. Et je vis à la limite du front et de la chevelure, non pas naître, mais jaillir, oui, jaillir, des perles de sueur. Je ne sais si Werner von Ebrenach le vit. Ses pupilles, celles de la jeune fille, amarrées comme dans le courant, la barque à l'anneau de la rive, semblait l'être par un fil si tendu, si raide, qu'on n'eût pas osé passer un doigt entre leurs yeux. Et Ebrenach, d'une main, avait saisi le bouton de la porte. De l'autre, il tenait le chambranle. Sans bouger son regard d'une ligne, il tira lentement la porte à lui. Il dit « Je vous souhaite une bonne nuit. » Je crus qu'il allait fermer la porte et partir, mais non, il regardait ma nièce, il la regardait. Il dit, il murmura « Adieu. » Il ne bougea pas. Il restait tout à fait immobile. Et dans son visage immobile et tendu, les yeux étaient plus encore immobiles et tendus, attachés aux yeux, trop ouverts, trop pâles, de ma nièce. Cela dura. Dura. Combien de temps ? Dura jusqu'à ce qu'enfin la jeune fille remua les lèvres. Les yeux de Werner brillèrent. J'entendis « Adieu ». Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre, mais enfin je l'entendis. Von Ebrenach aussi l'entendit, et il se redressa. Et son visage et tout son corps semblèrent s'assoupir comme après un bain reposant. Et il sourit, de sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante. Et la porte se ferma, et ses pas s'évanouirent au fond de la maison. Il était parti quand le lendemain je descendis prendre ma tasse de lait matinale. Ma nièce avait préparé le déjeuner comme chaque jour. Elle me servit en silence. nous bûmes en silence. Dehors, luisait au travers de la brume un pâle soleil. Il me sembla qu'il faisait très froid. Voilà, nous avons terminé donc la lecture de ce texte de Vercors, Le silence de la mer. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.